Radio Okapi.
Grâce à Mzati à la présentation.
Le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS désigne Félix Tshisekedi son candidat à l'élection présidentielle prévue au mois de décembre de cette année. Dans ce journal, nous vous parlons de ces tête-à-tête hier ici à Kinshasa entre le président de la République et la chef de la MONUSCO qui ont échangé essentiellement sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le médecin chef d'antenne du programme élargi de vaccination PEV Kindu dans la province du Maniema est notre invité. Après évaluation des journées vaccinales, Dr Walumba Omari nous parle du bilan réalisé. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par la page politique. Félix-Antoine Tshisekedi, désigné par son parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, candidat président à l'élection présidentielle de décembre 2023. Cette désignation est intervenue hier samedi 26 août lors du congrès extraordinaire organisé ici à Kinshasa. Suivez plutôt Clément Barouti, rapporteur du bureau du congrès, dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo.
Le congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, vit la décision numéro 005/UDPS/PP/SG/AKT/23 du 25 août 2023 porte à convocation du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi vit la nécessité et l'urgence des sites. Article 1. Le mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de l'UDPS Tshisekedi suivant la résolution numéro 05/UDPS/CONESTRA/2018 du 31 mars 2018 est renouvelé pour une période de 5 ans. Article 2. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS, est élevé au rang de haute autorité morale de référence du parti. Article 3. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi candidat de l'UDPS Tshisekedi à l'élection par scrutin direct du président de la République qui sera organisé par la Commission électorale nationale indépendante le 20 décembre 2023.
Et à Goma au Nord Kivu, au moins 60% des femmes ont été enregistrées hier sur les listes d'un regroupement politique lors du dépôt des candidatures aux conseils municipaux dans la commune de Karisimbi et de Goma. Ce record est salué par un acteur politique local au regard de l'engouement qu'affichent des femmes et des jeunes à participer à ces élections locales qui seront organisées pour la toute première fois en RDC après 1957. Maître Jean-Paul Lumbulumbu revient sur le rôle que vont jouer ces conseillers municipaux dans le fonctionnement des entités décentralisée et aidée, mais aussi pour marquer la démocratie à la base. Jean-Paul Lumbulumbu explique au micro de Sifa Maguru.
Nous venons de déposer les candidats des conseillers municipaux dans la commune de Karisimbi et dans la commune de Goma. Pour la liste ANB, par exemple, nous devons signaler que cette liste est majoritairement constituée par des femmes. Plus de 60% sont des femmes. Donc, sur 20 candidats, au moins 12 sont des femmes. Et c'est une particularité parce que cette élection présente des opportunités non seulement pour les femmes, mais également pour les jeunes. Pensons que c'est un fait qui devrait attirer l'attention de nos communautés parce que pour la première fois, nous allons élire les conseillers municipaux et les rôles que vont jouer ces conseillers municipaux est tellement important car, comme vous le savez, dans des pays qui se respectent où la démocratie à la base fonctionne, lorsque les entités territoriales décentralisées fonctionnent très bien, l'on ne sent même pas l'importance de se poser la question de savoir qu'est fait le gouvernement central. Nous appelons donc la population de la ville de Goma à faire confiance à ces candidats au moment opportun.
Au sujet du report des élections locales dans les communes ne se trouvant pas dans les chefs-lieux des provinces, cette décision est loin de plaire aux candidats de la ville de Beni. C'est confié à votre radio. Certains d'entre eux appellent la CENI au respect de la constitution qui stipule que les élections doivent commencer à la base jusqu'au sommet pour une bonne gouvernance. Gilberto Cassere-Calin II s'est dit déçu de cette décision de la commission électorale qui l'invite à revoir sa position. Il est dit à Guylaine Kassassia.
Alors que nous étions en train de nous préparer en tant qu'ambitieux au niveau de la commune, on était en train de mobiliser la population, comment nous allons servir notre communauté de la base, d'autant plus que le pouvoir va de la base au sommet. On savait que maintenant les choses seront vraiment bien orientées. Je savais que je vais vivre maintenant avec ma population. Nous allons travailler ensemble pour les questions sécuritaires, pour les questions développement de notre commune. Voilà, malheureusement, la CENI nous a fait le contraire. La CENI doit nous aider, comme elle a fait le report de ces élections. Nous pensons qu'elle va tenir cette promesse à la communauté. On ne comprend pas qu'est-ce qui a poussé la CENI de faire ces reports, parce que on allait faire la chose une fois pour toutes le 20 décembre de cette année. Peut-être la CENI a ses raisons. Nous sommes vraiment désolés de cette action, que la CENI vraiment tienne compte de cette loi constitutionnelle qui montre que les élections doivent commencer à la base jusqu'au sommet.
De son côté, la Nouvelle Génération, une plateforme regroupant plusieurs associations de jeunes, s'insurge contre la décision de la CENI d'organiser les élections des conseillers communaux seulement dans les chefs-lieux des provinces. Dans un point de presse hier, ici à Kinshasa, le président de cette structure dénonce cette décision contenue dans le communiqué de la CENI daté du 23 août dernier, qui, selon cette organisation, réduit l'opportunité pour plusieurs jeunes d'accéder à la gestion de la chose publique et contribuer aussi au développement du pays. Citoyens Totoro Mukenge invite par conséquent tous les jeunes de la RDC à dire non à cette violation et à exiger l'élection des conseillers communaux dans toutes les entités territoriales. Ces propos sont recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Ce n'est même pas nous qui dénonçons ça, c'est la Constitution qui garantit ce droit à tous les citoyens. Et vous êtes sans ignorer que la grande majorité de notre population vit dans nos villages ainsi que nos communes ruraux. Et c'est eux les victimes de toute malversation, mais aussi des conséquences de la mauvaise gestion de notre pays. Et cette jeunesse s'était préparée pour enfin se représenter dans leur milieu et pouvoir gérer la chose publique. Et par conséquent, pour nous, c'est une déception totale, puisque la population congolaise voudrait que leurs droits soient respectés, mais il y a une violation flagrante et de la Constitution et de la loi électorale. Nous demandons à la jeunesse congolaise de pouvoir se joindre à cet appel et de pouvoir dénoncer cette violation qui est à l'encontre de leurs droits et libertés. Par conséquent, les jeunes doivent réellement s'élever pour que leur voix soit entendue et qu'ils puissent participer à tous les niveaux à pouvoir faire entendre leurs intérêts.
La jeune fille doit briser la peur et avoir confiance en elle afin de faire face aux stéréotypes que la communauté a envers elle. C'est l'exhortation du Parlement d'enfants de Butembo Lubero à la jeunesse de cette région. Cet appel leur a été lancé hier à Butembo à l'occasion d'une conférence débat organisée par la plateforme Uripot, une organisation des jeunes parrainée par l'UNICEF. Activité rentra dans le cadre du mois de la jeunesse. Isabelle Zéphérine, secrétaire du Parlement d'enfants de Butembo Lubero et oratrice du jour, insiste sur la valorisation de la jeune fille dans la communauté. On l'écoute au micro de Grévy Salomon.
Déjà au niveau de la base, toute la communauté croit que la jeune fille n'a pas des capacités qu'elle doit aussi mettre en œuvre. Elle pense que son grand rôle, c'est de fonder foyer. La société, en tant que la jeune fille soit éveillée, qu'elle brise la barrière de croire qu'il y a des domaines réservés aux hommes ou aux femmes, qu'elle prenne les instances de prise de décision, qu'elle œuvre pour le règne de la paix dans notre zone, qu'elle sera capable déjà de gérer des petits problèmes à la base. Ça la permettra à évoluer et prendre des grands postes où elle aura le pouvoir de décider. La jeune fille, premièrement, elle doit avoir confiance en elle. Elle ne doit pas aussi croire qu'elle est incapable de faire certaines choses. Elle a un grand rôle à jouer. Elle doit briser les barrières de croire qu'il y a des domaines réservés aux hommes. La jeune fille doit rester éveillée et doit avoir la confiance en elle. Elle a des capacités qu'elle doit mettre en valeur pour que la communauté aussi en profite.
Autre nouvelle, le président de la République Félix Tshisekedi et la chef de la MONUSCO Bintou Keïta se sont entretenus hier samedi ici à Kinshasa. Selon la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, des sujets qui cadrent avec le partenariat entre la RDC et la MONUSCO étaient au menu de leur entretien. L'essentiel des discussions a porté sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, notamment en ce qui concerne les dynamiques liées au M23, précise-t-elle. Toujours d'après la numéro 1 de la MONUSCO, la situation au Grand Nord Kivu et en Ituri a été également évoquée. Les échanges ont aussi porté sur la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et le futur déploiement de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Finalement, nous avons discuté de l'organisation d'une manière qui soit digne du départ de la MONUSCO, conclut Bintou Keïta. Par ailleurs, sachez que les ministres de la Défense des 7 pays membres de l'EAC, réunis jeudi à Nairobi, conviennent de maintenir la force régionale de l'EAC en RDC au-delà du 8 septembre, date d'expiration de son mandat, pour, disent-ils, consolider les progrès faits sur le terrain. Au Nord Kivu, au moins 4 personnes tuées samedi soir dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF à Jakia, un village situé à une quarantaine de kilomètres de Beni. Omar Kalicia, président de la société civile territoriale, affirme que ce bilan est encore provisoire. Des jeunes de la région, accompagnés des militaires des FARDC, se sont rendus aujourd'hui matin dans la zone pour tenter de retrouver d'autres corps de personnes disparues depuis hier samedi, ajoute la même source. Nous n'avons pas encore eu la réaction de l'armée ni de l'autorité territoriale à ce sujet. Nord Kivu toujours, le territoire des Massissi reste sous le joug d'une insécurité persistante dont les dégâts collatéraux et crimes ne sont plus à démontrer. C'est ce que dénonce la société civile des Massissi dans un communiqué de presse rendu public ce week-end. Cette structure déplore plusieurs exactions dont la population est victime des rebelles du M23 principalement, mais aussi certains groupes armés locaux. Cette structure citoyenne demande au gouvernement de revoir ses stratégies pour mettre fin à cette barbarie que subit la population et aux groupes armés locaux de ne pas céder au jeu de l'ennemi qui cherche à briser la cohésion nationale pour en tirer profit. Sifa Maguru.
La société civile de Massissi dresse un tableau sombre de la situation que traverse la population dans les villages et sur les axes routiers. Telesfor Mitondeke explique.
Cette insécurité grandissante reste perpétrée par les terroristes rwandais du M23 continuent à exceller dans les crimes illustrés notamment par les meurtres et assassinats des populations congolaises, les viols comme armes de guerre, les enlèvements de plusieurs citoyens congolais, le massacre, les incendies des agglomérations, les traitements inhumains infligés aux otages, l'enrôlement et ou utilisation forcée des jeunes au sein de leurs rangs, le pillage systématique.
Ce communiqué revient sur la prise d'otages du 23 août dernier, où plus de 350 personnes, en majorité des hommes et des jeunes, alors que le M23 venait de boucler le village Rouchébéché. Des voyageurs et des motards sur l'axe Kichanga-Goma ont également été pris pour cible. Certaines personnes ont été relâchées, alors que d'autres ont été forcées à transporter les effets des rebelles et d'autres enrôlées par force, poursuit le communiqué. La société civile de Massissi évoque en outre des dérapages et un fond entre groupes armés locaux qui provoquent des déplacements des populations. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Pendant ce temps, à Ituri, plus de 10 000 personnes qui ont fui des attaques la semaine dernière des groupes armés dans le groupe Mabayana et dans plusieurs localités des chefferies des Babelebe et Baboabokoe commencent à regagner leur milieu d'origine. Ce retour est rendu possible grâce aux efforts du gouvernement provincial qui a initié plusieurs rencontres entre les leaders des groupes armés FPIC et CODECO ainsi que les communautés locales après la mort de 17 personnes et d'importantes pertes des biens et des populations. Les notables de cette entité plaident pour une assistance humanitaire urgente au retourné, mais aussi la construction des écoles. Les détails avec Ezekiel Mouzalia.
Voici plus d'une semaine que les autorités locales intensifient la sensibilisation des leaders des deux groupes armés, CODECO et Front Patriotique Intégrationniste du Congo FPIC, pour leur demander de cesser de s'attaquer mutuellement. Des efforts qui ont fini par payer. Certaines familles qui avaient fui ces combats commencent déjà à rentrer progressivement dans leurs localités respectives. Le chef du groupement Bayana remercie les autorités provinciales et salue les efforts fournis pour préserver l'unité et la cohabitation pacifique entre les communautés. Néanmoins, il demande aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide en vue de préparer eux aussi la rentrée scolaire de leurs enfants. Iyana Biyabo Abdul. Je demande à tous ceux qui sont encore en déplacement de rentrer dans notre milieu. Le grand problème ici dans mon entité, nous n'avons pas d'école. Dans le village Akodabo, il n'y a que 3 écoles et toutes sont détruites. Que les autorités nous aident. Pour sa part, le commandant de la 32e région militaire appelle les jeunes qui détiennent encore les armes dans cette entité à les rendre au PDDRCS et de travailler pour le développement de leur milieu. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Parlons justice. Le ministère public requiert la perpétuité contre le député national Edouard Mwangachuchu. Il a prononcé son réquisitoire à l'audience publique de vendredi à la prison militaire d'Indolo dans les procès qui les opposent depuis plusieurs mois. La haute cour militaire ne rendra son verdict qu'après toutes les plaidoiries, dont celle de la défense attendue mardi 29 août prochain. Jeff Ngoy.
L'officier du ministère public requiert contre Mwangachuchu 5 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, la perpétuité pour participation à un mouvement insurrectionnel, 20 ans de servitude pénale principale pour trahison. En application de l'article 7 du code pénal militaire, il fait le cumul des peines et sollicite des juges la peine la plus forte, soit la perpétuité. Le réquisitoire du ministère public requalifie aussi l'infraction d'espionnage en trahison contre Edouard Mwangachuchu, ce qui prouve à suffisance, selon le conseil du député, que l'auditeur militaire veut à tout prix incriminer son client qui ne cesse de clamer son innocence. Maître Thomas Gamakolo pense que le ministère public a été incapable de démontrer l'infraction d'espionnage et pouvait simplement demander l'acquittement du prévenu. C'est très grave ce que le ministère public a fait, argue l'avocat. Mwangachuchu et son coprévenu Robert Mouchamaliroi sont accusés d'intelligence avec la rébellion du M23. Après plus de 30 audiences avec plusieurs dépositions de renseignants officiers de la police, le procès du député tend donc vers la fin.
Actualité internationale.
Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa, 80 ans, est réélu pour un second mandat avec 52,6% des suffrages à l'issue d'un scrutin qui a connu d'importants dysfonctionnements et dont la régularité est mise en cause par les observateurs ainsi que par l'opposition, annonce ce samedi la commission électorale. Son adversaire, Nelson Chamisa, totalise 44% des votes.
L'invité.
C'est Dr Walumba Omari, médecin chef d'antenne du programme élargi de vaccination PEV Kindu. Après évaluation des journées vaccinales, il nous parle du bilan réalisé. Docteur Walumba Omari s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Docteur Walumba Omari, bonjour.
Bonjour.
La campagne de vaccination contre la poliomyélite a pris fin et vous venez d'évaluer ces journées vaccinales. Quel bilan faites-vous de ces activités?
Effectivement, Madame Florence, nous venons d'évaluer les journées nationales de vaccination. Durant 2 jours, nous avons rassemblé le représentant de différentes équipes cadres des 18 zones de santé. Et le bilan est tel que, d'une manière générale, c'est satisfaisant parce que sur le plan vaccinal, nous avons vacciné plus de 600 000 enfants âgés de 0 à 59 mois, ce qui représente des couvertures vaccinales de 100%. Et il faut dire qu'il y a quand même des disparités au niveau de zones, mais la couverture moyenne au niveau des zones santé reste autour de 99%. Mais au-delà de ça, il était aussi question de rechercher les maladies à prévention vaccinale. Cet objectif a également été atteint parce que il y a des cas de maladies comme la rougeole, des cas de paralysie flasque aiguë qui ont également été notifiés durant cette campagne. Mais également, nous avons eu à récupérer un certain nombre d'enfants à des proportions quand même satisfaisantes, des enfants qui étaient en conflit avec leur calendrier vaccinal.
Plus de 600 000 enfants vaccinés. Vous vous attendiez à vacciner combien d'enfants?
En principe, la cible qu'on attendait est autour de 6 000 par rapport à notre population extrapolée. Et donc, nous avons vraiment vacciné presque tous les enfants. Mais il est vrai qu'il y a par-ci par-là quand même un ou deux enfants qui n'ont pas été atteints pour l'une ou l'autre cause. Soit ce sont des cas de refus, soit des enfants qui ont été absents, mais lorsque les équipes sont revenues pour le revacciner, ils ne les ont pas trouvés. Mais d'une manière globale, la proportion d'enfants qui n'a pas été atteint est tout à fait quand même faible et acceptable.
Les cas de refus sont signalés dans chaque campagne. Lors des pareilles assises, vous ne prenez pas des mesures pour résoudre ces problèmes?
Bon, bien sûr, il y a toujours cas de refus et la plupart des refus sont dus à des croyances religieuses et on a su constater qu'il y a également des hésitations. Sans aucune raison valable, il y a seulement des parents qui hésitent de faire vacciner leurs enfants. Et c'est pour cette raison qu'à l'issue de ces évaluations, nous sommes déjà en train d'élaborer un plan de redressement qui va prendre en compte la cartographie de tous ces cas-là de refus et essayer d'envisager des stratégies en interphase, parce qu'il y a des phases aussi à venir, pour voir comment on peut faire face ou vacciner tant soit peu ces cas-là de refus.
Docteur, cette campagne était aussi l'occasion de récupérer d'autres enfants en conflit avec leur calendrier vaccinal. Et vous avez aussi vacciné contre d'autres maladies évitables par la vaccination. Mais il s'observe dans la ville que les cas de rougeole refait surface, et cette fois-ci chez les adultes. Comment expliquez-vous ça?
Il y a des cas de rougeole, comme vous le dites, ce sont des cas qui sont en train d'être notifiés par les différentes zones de santé. Et par rapport à nos analyses, plus les enfants de 0 à 5 à 9 mois qui sont touchés, et lorsqu'on évalue leur statut vaccinal, ce sont des enfants soit qui ne sont pas vaccinés contre la rougeole, mais pour ceux-là qui sont vaccinés, même s'ils font la maladie, mais souvent ce sont des formes bénignes. Mais pour les adultes, ça peut être le fait que bon, ils n'ont pas été vaccinés et c'est comme ça qu'ils attrapent la maladie. Mais la maladie elle-même, étant donné qu'elle occasionne aussi l'immunité, donc les adultes là qui n'ont pas été vaccinés et qui viennent d'attraper la maladie, déjà pour eux c'est une occasion d'être immunisés contre cette maladie là.
Mais on accuse aussi certains membres de l'équipe des vaccinateurs qui n'arrivent pas dans des maisons lointaines, bien que les enfants sont disposés.
Bon, je pense que toutes les dispositions étaient prises pour se rassurer que les équipes sont passées dans tous les ménages. L'un des mécanismes, c'est d'abord, au moins pour deux équipes, on avait un superviseur de proximité qui pouvait se rassurer si au moins les équipes sont passées partout. Mais au-delà de ça, on a également réalisé ce que nous appelons le monitorage. Le monitorage interne, donc le monitorage nous permet de retrouver dans les localités, les maisons ou les ménages qui n'ont pas été visités.
Docteur Walumba Omari, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Le chef d'antenne du programme élargi de vaccination PEV Kindu était interrogé par Florence Kizalunga. Ainsi s'achève ce radiojournal. Merci à Jacques-Yves Molima qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Peleki Pelamondo. Alain Goy a assuré la mise en onde. Merci également à vous tous qui nous avez suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.